Les colloques du Collège de France.
Merci d'être, enfin de pouvoir être ici, puis d'être en amitié autour de Michel Butor. Alors, je ne vais pas parler de mes travaux précédents, qui sont plutôt concentrés sur le livre d'artiste qui me passionne, et puis sur des expositions que j'ai pu accompagner ou dont j'étais commissaire, mais m'en tenir à ce carrefour où je suis au présent entre la muséographie et la littérature, puisque j'exerce les deux métiers. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous propose de voir comment Michel Butor a honoré 11 commandes éditoriales ou muséales pour des collections de muséums, de musées de beaux-arts, de techniques ou d'ethnographie. Ces collaborations autour de beaux livres et ou d'expositions naissent toujours dans l'amitié. Que ce soit avec un conservateur, une directrice de musée, un photographe, un enseignant-chercheur, un éditeur, un artiste, ces 11 collaborations ont donné lieu à des livres avec photographies d'objets de collection. Et je ne retiens ici que les livres sur des ensembles, parce qu'il y en a bien d'autres sur un seul objet ou une seule œuvre. Michel Butor aime composer leurs maquettes ensemble, voir les épreuves préparatoires, découvrir un nouveau visage du livre. Il écrit ce qu'une société de la rentabilité oblitère, le temps du regard, l'alentissement au musée. Puis, à l'atelier, face aux photographies transmises, il écrit depuis des cuillères, des masques ou des vases. Et dans ses livres, le rapport à la photographie invite des actes de renforcement. Le rayonnement de la photographie émane non seulement de l'objet, tout particulièrement de la prise de lumière, mais c'est aussi la puissance de germination du texte qui anime ce médium photographique par nature spectrale. Son retour du mort. Au musée, comme l'écrit Adonis, faire mourir la mort et naître d'un poème. Michel Butor habite les musées comme des génies du lieu, non des mausolées poussiéreux, mouroirs ou sanctuaires. Il écrit le musée vivant dans l'épaisseur des temps, dans les strates de langue. Il ne limite jamais le musée à une seule fonction, comme celle qu'il aime à citer, un lieu de rendez-vous le plus convenable pour une femme, selon Baudelaire, ou un lieu de pèlerinage quand les surréalistes vont au musée Gustave Moreau. Jamais nommé commissaire, comme le sont les écrivains invités en homme de cinéma, tel Rob Grier, au Kunstmuseum de Bergen en Norvège en 2000, ou en plasticien, tel Jean-Philippe Toussaint au Louvre en 2012, Michel Butor participe en étroite collaboration avec au moins 3 musées. Familier des lieux, plus qu'un invité honorant une unique commande, sa fidélité au musée Barbier-Müller, une des forces de fécondité, lui fait regarder autrement une collection, puis une autre, à 5 reprises. D'une manière atypique, pionnière, il a devancé un courant éditorial d'invitation d'écrivains au musée, un art muséolittéraire, sans céder à une propension actuelle à la confidence autobiographique. En le conviant, les conservateurs de ces musées affirment la nécessité d'une langue sensible d'écrivain, une langue non neutre et pour autant accessible. Au fil des années, de musées imaginaires inattendus en catalogues extravagants, Michel Butor finit par inviter la poésie dans les salles mêmes du musée. Cette écriture est à part entière une pratique muséographique. L'hybridation de ces textes est une des manières pour inviter un genre muséolittéraire vitaliste dans la puissance d'un ensemencement virevoltant, foisonnant, de formes, de registres, de matières. Et nous allons voir comment il investit les musées réels devenus imaginaire comme des dispositifs de transformation plutôt que de conservation. Je rappelle rapidement 3 essais qui affirment des principes. Autour d'œuvres des Beaux-Arts, son essai « Les mots dans la peinture » répond à la commande de la collection de Gaëtan Picon, « Les sentiers de la création » chez Skira, qui est le premier éditeur du musée imaginaire de Malraux. Picon souhaite une iconographie éclairant le chemin créateur de l'écrivain. À Narcisse, Michel Butor préfère les lignes de fuite d'un Don Juan ou d'un Icare. Pourtant, il pose un enjeu déterminant de son chemin. Ne plus séparer les arts des lettres. Les lettres des arts, préfigurant les arts littéraires, les livres d'artistes en amitié. En 2015, à l'invitation de son ami Lucien Giraudeau, il choisit des œuvres picturales décisives qui marquent l'histoire de l'art occidental sur support habituel. 105, comme les 105 chapitres des 5 livres du répertoire en référence aux essais de Montaigne, moins 1. L'argumentaire liminaire marque un regret. Nous en restons donc à la classification habituelle de nos musées. Insuffisance en nombre, en étendue géographique, en diversité ethnographique, loin du projet malrusséen. Il clarifiait son enjeu. Suivre non le point de vue, mais le point de voir. Faire voir ce qu'on n'avait pas vu à la première rencontre. Donc revoir, revisiter, voir l'invu, au réservoir du hors-champ, à l'attention de la composition, aux directions des regards. Lucien Giraudeau, à propos de ce livre, décèle un trouble optique, tel le dédoublement de Flore dans le printemps de Botticelli. Vous voyez l'une presque nue et l'autre en bouquet. Deux moments de la végétation printanière, le bourgeonnement et l'épanouissement. Le citant ainsi, je nous mets sur la piste des germinations. Ce livre fait musée imaginaire par quelques rares rapprochements entre un peintre en préfigurant un autre, Bellotto, Goya, un soupçon de modèle comparatif si cher à Malraux, renouant avec le XVIIIe, avec l'accrochage sensible qui présente des œuvres par affinité. Mais ce qui frappe comme espace de liaison, c'est la présence du livre, William Blake, l'association à des extraits littéraires, Giotto et Proust, les rapprochements avec des écrivains, notamment en matière d'orientalisme. Toujours abolir la frontière des arts et des lettres. Enfin, Michel Butor se soucie de scénographie, quand les tableaux sont exhibés, non montrés. Par saturation des toiles au Palais Pitti de Florence jusqu'au plafond et de songer, je cite, à une histoire de l'exposition. On saisit que Michel Butor a à cœur une heuristique qui a pour objet non seulement les œuvres, mais aussi les méthodes, l'exploration de l'imaginaire, au sens où des images hantent d'autres images. Et s'il ne pratique pas l'anachronisme en images tel un Abby Warburg, il pratique l'anachronisme des citations littéraires. Troisième geste. Michel Butor ouvre sa grande armoire de curiosité avec la complicité d'Olivier Delhomme, la grande armoire normande qui contenait tout le linge familier de l'enfance, le linge familial, offre, selon les mots du poète, un humus, une fouille archéologique en désordre, et renoue avec le cabinet de curiosité de la Renaissance. Ici, 81 objets, échantillons significatifs dans le livre sur les 500 que contient l'armoire. Il tient à préciser que ce n'est nullement une collection. J'ai voyagé en professeur, j'ai rapporté des objets, mais cela ne constitue pas une collection. C'est le témoignage d'un endroit. Il n'y a pas d'achat chez des antiquaires, et l'idéal, c'est un cadeau. La parole d'un lieu où je suis passé. C'est avant tout la documentation et la matière à réflexion. Il faudrait une étude entière pour apprécier la composition de ce livre, et je ne donne que deux exemples. Ici, vous voyez deux sacs. Et il y a une interrogation du statut ethnographique de l'objet. Le premier en vannerie, acheté chez un dépanneur québécois, dont il précise il y avait une étiquette qui l'identifiait ethnographiquement. Art, India, Funai, tribu, Karaja. Un début de cartel dans un rayon de supérette. Aussitôt suivi d'un sac en cuir de vache et de plumes de perroquet, acheté au marché de Sao Paulo. Et de préciser, il ne s'agit pas d'un objet ethnographique au sens habituel. Rapprochement et différence, encore une interrogation des classifications. Pour les objets suivants, oui, conçus avec Giry Collard, il reprend, en la faisant courir sur les pages consacrées à trois objets, leur description dans un récit de rêve qu'il a repris par la suite en le mêlant à d'autres éléments dans le second volume de Matière à rêver. Pour le premier objet, les tubes à essai, Michel Butor cite ce texte précédent qui donne à voir tube à tube, et recto et verso, ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas voir dans le livre. Alors il ajoute une légende à la façon d'un cartel. La femme est un portrait de Petrus Christus et l'homme est d'Antonello de Messine. Ces trois livres, comme vous le voyez, qui n'accompagnent pas encore des gestes expositifs, se décalent chacun différemment par rapport à une commande. Et cette différence est un des facteurs expliquant la fréquence hors norme de ces collaborations muséales, offrant la garantie d'une écriture depuis une collection précise, tout en mettant à distance le terme de collection, pour ce qui serait un geste volontaire d'un chasseur faisant tableau. Porté par les rencontres, Michel Butor préfère le cueilleur-butineur. Tenant compte des circonstances de ce qui se tient autour, ici une rénovation, là un déménagement vers les réserves, il accueille la matière en hôte et en écrivain pour, à son tour, inviter en son propre monde. Telle est la vertu de la réciprocité du mot hôte. Ce qui ne va pas sans quelques perturbations pour son lecteur, entre égarement et mémoire, on ne sait plus où on est, on a perdu son amarre. Ces textes déjouent le style habituel du catalogue. La machine littéraire éprouvée depuis une matrice confond le dire dans la redite et l'écho, met à l'épreuve du blanc, de la réserve de la page. Michel Butor traverse et habite le lieu autant que l'objet. Il le fabule par l'essai, le récit, le poème. Il invite la conversation, la sève du vivant plus que la glose. Pour premier jalon, avec les naufragés de l'Arche, il revisite le parcours horizontal des sables du Muséum de Paris sur un axe vertical, en une élévation volatile. Procession d'animaux dans l'Arche, en ressouvenir de Noé, et fable du lieu avec son architecture, sa scénographie. Puisqu'ils partent en réserve, les adieux sont scandés par 8 strophes en italique de Baudelaire, l'irrémédiable et rêve parisien. Le récit est hybridé de listes de fragments de corps animaux, incarnations en kit et thématisées des espèces animales. L'architecture tient le texte par la métaphore filée de l'arche, puis d'une nef cathédrale, puis d'un palais selon Baudelaire, dont il cite un vers autoportrait, architecte de mes féeries. Il fait de la pluie et du soleil des agents de transformation des visiteurs, soudain déguisés en girafes, explorant le fond marin, et je cite, « usine à classification à Dieu dans l'universalité animale des terres comme des mers ». Le texte déjoue ce qu'il avait d'abord mis en place, la classification par salle, jusqu'à la litanie par l'anaphore « il y avait », des scènes de diorama quelque peu fictives que la nécessité de l'adieu doit interrompre. Voilà qui déclare la méthode et la métamorphose, transmutation. Refrain, litanie, anaphore, identification boussole sont les signes vertueux de reconnaissance aussitôt perturbés par un nouvel angle de désidentification. Le tourbillon enlargi, infini, recule toute tentative de définir. En voici un petit florilège, Babel, vergers infinis, nuit des corolles, convocation d'oiseaux mineurs en majesté dans les cloîtres dormants, quatrains ponctués d'un refrain disparu, puis jaillissement, mûrissement de multiples oiseaux jusqu'au buteur, évidemment, et à l'allusion à l'autoportrait de Michel Butor en singe. Première collaboration avec le musée Barbier-Meuller, le Congrès des Cuillères réunit 45 monologues, comme la mention l'indique, en guise de catalogue. Michel Butor renomme poétiquement une sélection de cuillères de toute provenance, hein, Philippines, Indonésie, Afrique, qu'il anime et personnifie. La pleuse, la dévorante, l'escaladeuse, la danseuse, l'oiselière, la consolatrice, l'ocellée, auxquelles il donne la parole pour qu'elle se présente. Le poème fictionnalise et resitue la fonction de cuillère vitrinifiée. La visite au musée de ce qui est en dormance peut devenir une rencontre plus incarnée. Je vous mets quelques exemples de ces cuillères. Le texte liminaire, non sans humour, évoque l'innombrable descendance d'une cuillère et d'un couteau accompagnant les peuples dans leur migration. Le procédé va être identique pour la collection des masques. Faire parler les masques, porter, et d'autres plus petits qui sont des représentations, hein, des miniatures qui sont plutôt des dispositifs épistémologiques, en 13 chœurs de chacun de 8 à 9 poèmes, des chœurs des masques émerveillés ou des masques souriants. Chaque huitain est dicté par l'expression d'un masque. Et là, vous avez par exemple, dans Chœur des Hilars, je moule la farine du rire pour pétrir le pain d'endurance. Je moule la farine du rire pour pétrir le pain d'endurance. Butor se soucie de la mise en situation, de faire vivre une expérience, se mettre en silence pour que les masques puissent me parler, puis parler aux visiteurs. Il y a un réel souci des visiteurs. Tout part du « je est un autre » et Michel Butor se réfère aussi à Descartes « je m'avance masqué, je et plusieurs » et son livre de même. Et vous voyez que pour le cœur des passeurs, eh bien, les deux dernières ligne, vers, pour que vous puissiez en renaître tout aussi multiples que moi. Bipartition, l'un et l'autre, ou plusieurs phénix, encore une frontière interrogée. Autre livre, Icare est à Paris. Du moins, il atterrit au Musée des Arts et Métiers. Michel Butor accompagne à nouveau un projet de rénovation et de transformation du musée. Le labyrinthe, motif butorien, sied bien à ce musée abrité par un monument historique. Icare lit les cartels des œuvres, et son monologue ne cesse d'être entrecoupé en de multiples directions. Table de désorientation par juxtaposition, à la manière bien connue du quilt à la Butor, notices biographiques, extraits de dictionnaires, documents, références précises aux œuvres de Vaucanson, Cugnot, Lavoisier, Volta, et aussi à des inventions fictives comme le Nautilus de Jules Verne, rencontre d'autres fantômes, faisant du musée un lieu conversationnel. Des inventeurs s'entretiennent avec des écrivains passionnés de machines. Le texte est hétéroclite, événement déroutant troué d'alinéas et chargé à blanc de leçons qui n'en sont plus, leçons de calme, leçons de curiosité, leçons de ruse, d'abîme, de mémoire. Puis le texte donne l'illusion de s'autonomiser, s'engendrer, s'emballer par contagion, d'engager une réciprocité dans un ruban qui se le mord la queue. Je cite « Je rêve d'un texte qui soit comme une machine. » Puis « Je rêve d'une machine qui soit comme un texte. » Jusqu'à une scène en poupée gigogne avec des machines qui rêvent d'ingénieurs qui rêvent. Texte à engrenage au pays des machines. La poésie est cet état de langue chargé d'explorer le lointain et le futur, le présent et l'archéologie. Et un double mouvement agit constamment et le personnage et le texte. La soustraction, coupe du texte haché, perte des ailes, perte de connaissance, chute, et la dissémination par excès de greffes textuelles, de plumes éparses. Mais vient la réparation. Icare recolle ses plumes une à une. Icare se souvient et ressasse l'état de ses ailes. Le poète multiplie leitmotiv et épanalepse. Mes ailes m'encombrent, mes ailes repoussent, mes ailes sont mal ajustées, qui sont autant de réglages d'un appareillage dans un appareil textuel. Le récit s'écrit à la fois dans le retrait et l'aperture, dans le ressouvenir et la reprise, pour reprendre les termes de Kierkegaard, le ressouvenir individuel, alors pour Icare, c'est regarder derrière le labyrinthe, le Minotaure et vers Égée, et le ressouvenir collectif, pour nous, c'est la fabula et le mythe. On écrit toujours peu ou prou l'intérieur d'un monde de lecture, et la reprise en avant par Butor, ce qu'il en fait, ne consiste pas qu'à citer, mais à convoquer la structure, la façon dont le texte est fait. Le texte exhibe son montage, son télescopage entre registre et temps, feuilletage, qui redonne au musée son épaisseur, au lieu d'une sage succession chronologique que vient pilonner la mécanique textuelle, et ainsi de dérégler les dispositifs textuels canoniques de médiation scientifique que sont les catalogues d'exposition. Troisième collaboration avec le musée Barbier-Muller. Au commencement, le poète rappelle l'étymologie qui unit parade et parure dans une même racine latine, préparer. Prévoir. Il retourne la langue comme un gant sur son origine, puis il convoque Baudelaire, encore, Lamartine, Huysmans, Hergé et sa Castafiore, Gautier, l'Apocalypse de Saint-Jean, la Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Parmi les bijoux de peau, de cheveux, de vêtements, il invite les bijoux d'une anthologie littéraire. Parade des langues et des poètes, invitation des arts littéraires au musée d'une autre manière encore. Le poète ne manque pas d'humour en convoquant de prime abord, en poésie certes, et Baudelaire et Paul Valéry, l'amoureux du musée et son détracteur. Butor en amoureux de l'un comme de l'autre, décloisonne encore. Dans le livre « Graines », le récit préface, délesté d'érudition botanique, relégué en notice de fin de volume, est une réécriture du conte anglais « Jacques et le haricot magique ». Il offre à l'architecte arboriste la structure nécessaire pour faufiler l'écriture, en miniature. Pour attirer notre attention vers les petits mondes, toute curiosité à bâton ouvert, agrandir le trou de nos serrures, en élévation pour dresser des échelles, grimper jusqu'aux nuages, en dépli pour faire ruisseler un paysage, ouvrir des portes dans des portes, en profondeur entre strates et palimpsestes, entre deux, moins avec la cohorte des concepts, parce que les concepts intermédialité, intertextualité, intratextualité sont devenus bien faibles pour aborder le réservoir butorien, non avec l'archéologie, comme un archéologue s'insinuant par des fissures. Vertu de l'antre. Butor est un peu comme sa Joconde, en vadrouille au Palais d'Orsay, qui se faufile dans d'autres tableaux, musées, visiteurs même, qui se coule entre deux cadres, entre deux étiquettes, deux marches, étages, siècles, entre deux portes, entre deux eaux, prendre la brèche, ouvrir la fente de nos voiles, en pas de côté dans la ritournelle, et pour le coup en retrait, en une pirouette finale de la Joconde. Et vous voyez que là, on est en bas de page et qu'une fois tourné, eh bien, ça passe à autre chose. Le lecteur reste en plan. La Joconde a disparu. Texte bouture, greffon, surgeon, la réécriture du conte de Jacques épouse la croissance luxuriante de la pousse magique. Répétition en embranchement, narration enchevêtrée, foisonnement jamais chaotique ou brouillon, le récit se fait arborescent, chapitré pour scander les péripéties, surgeon insurgé qui porte en lui la joie, la jouissance de l'apparaître, de ce qui naît. Poésie d'élévation au cadastre impossible d'un monde mobile. provision de semences, levain pour déceler quelque chose dans la perception. La métaphore du jardinier s'impose, rappelant le texte liminaire de l'horticulture itinérant. Il faut pourtant enregistrer tout ce qui fleurit. Structurer l'espace, pas uniquement déplier, mais emboîter, augmenter, greffer, soustraire, tailler. Même une graine est promesse de structure. Et Michel Butor, de citer Herman Melville, en exergue encore de l'horticulture itinérant, une célébration de l'architecture et de l'élévation. Un architecte arboriste avait planté dans les fondations quadrangulaires des graines. La poésie célébrante et sensorielle est à l'accueil du quotidien. Michel Butor travaille le vivant et sa mémoire, la lumière intérieure et l'obscurité du monde, la sève et les cendres. Et tel son bûcheron subtil, le métier n'est point d'abattre les troncs, mais de dégager les espoirs de nos forêts. Michel Butor, au musée dormant, célèbre l'apparaître. Et pour germer, que faut-il ? Du terreau, une graine, une eau, une fissure, une ouverture de la crène, une poussée. Ce qui se fissure ici, la langue, la poésie, selon Agamben, n'est-elle pas l'art de fracturer le langage, de briser les apparences, de désassembler l'unité du temps ? C'est au plan narratif ce qui se passe dans le geste d'entrecouper le conte en haricots magiques de poèmes. Le titre du récit préface, une poignée de graines, est à l'oreille le geste d'une main jardinière, la reprise du conte. Et la graine, c'est d'abord un conte d'autrefois cueilli dans l'enfance, un souvenir. Alors ce conte, c'est un récit de la germination, on le sait. Mais c'est d'abord un conte de la dormance. La dormance d'une graine et sans doute des objets de collection, des images, leur aptitude à réapparaître puis à hanter, ici de façon heureuse, nos rêveries. La dormance, c'est le pouvoir qu'a la graine, sous l'apparence du sommeil, de germer si les conditions deviennent favorables à sa transformation. La réécriture amplifie l'histoire d'un endormissement souhaité ou non. Dans le conte, compter pour endormir les enfants, résister au chant de la harpe qui joue seule des berceuses pour endormir, offrir des sommeils de rajeunissement, prendre des graines de café pour ne pas s'endormir, voler des graines dans le nid des oiseaux migrateurs au moment où ils s'endorment, des graines couleur d'attente, de sommeil, d'hibernation, d'éveil. Le conte réécrit est entrecoupé de 11 poèmes, dont 9 sur la matrice de la graine. Le récit prend bien sûr des méandres infidèles à la version canonique du conte et de poule aux œufs d'or, il en est, mais il en fait boule de neige, œufs de fourmis, de grenouilles, de saumons, d'hirondelles, de pigeons, de cannes, d'autruches, de dinornis, et ici, à la fin, de dinosaures. La multiplication et la taille augmentant en chaque voyage vers Ogre et Ogresse. Entre chaque titre et développement narratif, le poème interlude se tient au seuil, traverse la mémoire, travaille la langue. Le récit transmis prolifère, multiplie sa matrice et son canevas. Et dans le récit, naît un séquoia minute, où des oiseaux nourrissent leurs petits de graines architectes, nouvelle poignée pour Jacques pour créer une maison-palais. Et l'exposition de la maquette de ce palais nous fait entrer dans la muséographie. Et le mot est écrit à l'intertitre de section. On fit éclore des jardins et d'autres instruments de musique. Jacques, devenu horticulteur pépiniériste, expert en greffe et bouture, dit à la harpe « Tu ensemenceras mon langage ». Au final, la muséographie d'une galerie du beau-père collectionneur classifie, le beau-père de Jacques, classifie d'un côté les plantes à organes reproducteurs cachés et de l'autre les plantes à graines. Retour improbable de la classification. Et dans la scénographie imaginée, des vidéos montrent l'éclosion en accéléré des bourgeonnements, des apparaître. La fin boucle sur le récit engendré par les graines d'où naissent les arbres tutélaires de l'écriture. Voilà le ruban de Moebius d'un Butor et Cher jusqu'à une prochaine pépinière de textes en germe avant d'être transplanté avec d'autres techniques. Michel Butor le dit lui-même, l'œuvre d'un individu est une sorte de nœud qui se produit à l'intérieur d'un tissu culturel au sein duquel l'individu se trouve non pas plongé, mais apparu. La poésie de Michel Butor réveille le conte dormant dans un jeu de dissémination qui s'opère de trois manières à minima. Dans la sérialité, le purlier et la collection, dans le déplacement migratoire, et enfin dans la fécondité verticale, ce que symbolise le haricot, qui traverse la notion même de paysage selon un axis mundi qui finit par ne plus faire la part entre le ciel et la terre. Si même au-delà des nuages, à relire François Julien, le paysage, si on se limite à l'Europe, sauf comme la partie d'un tout limité par l'horizon ou un cadre, selon un sémantisme de l'étendue, de la vue et de la découpe, A contrario, dans la pensée chinoise, mais vous ne m'en voudrez pas de voir Michel Butor un peu en chinois, quoique il fût souvent plutôt japonais. Bref, dans la pensée chinoise, un paysage vaut non pas tant pour ses traits définis, marqués, arrêtés, que pour ce qui le traverse, par ce qui émane de lui, à titre d'effet, s'en diffuse et ne s'y borne pas. Un principe d'intensification, d'intensité vitaliste qui anime deux gestes conjugués de Michel Butor, semeur et glaneur, rassemblant l'hier et le demain dans notre présent de lecture. Écrire, c'est donc se fixer un protocole, nombre de vers, hybrider l'écriture, le fragment, interroger l'identification taxonomique, inscrire la désorientation dans le fil narratif. Mais encore, que ce soit pour Icare ou Graine, le jeu de probabilité et des combinaisons expanse et dilate notre monde. Une manière de ne pas faire frontières, toujours activée par Michel Butor, de franchir ces frontières entre le proche, le présent du musée, et le lointain, les collections sourcées, entre un fond culturel, la mythologie, et le commun, notre concret, la matérialité, entre le dedans, le dehors, la terre, le ciel. Dernier jalon de ce voyage, la poésie de Michel Butor est véritablement constitutive d'un parcours muséographique pour l'exposition 600 000 ans de réceptacle. Alors c'est encore une collection de 5 continents, hein. Et le processus de travail est tout à fait réglé avec le musée Barbier-Meller. Michel Butor, en fait, choisit les œuvres parmi une présélection, puis il demande des dossiers d'œuvres. Les notices du catalogue sont écrites après. Donc il demande des dossiers d'œuvres, des masques comme des réceptacles. Hein. Malgré la réticence de, du directeur, hein, qui souhaitait qu'il écrive uniquement à partir de son émotion, il consulte cette documentation. Ces poèmes figurent aux côtés des objets en vitrine, qui gardent leur cartel. Alors il y avait un seul poème qui figurait sur une simèse pour l'exposition Masque, comme vous le voyez ici, avec ce même principe d'un premier vers manuscrit, écriture blanche sur fond noir. Pour réceptacle, par contre, la scénographe Nicole Gérard a scandé les soclages blanc-noir, rythmé les formes carrées, noir-blanc, épousant la ligne éditoriale du catalogue. Donc vous avez là quelques vues des salles autour de ces réceptacles. Donc des cartels poèmes qu'on retrouve dans ou à côté de la vitrine. Il faut toujours compter avec les prépositions avec Michel Butor. Donc de légères variations et par contre une forte unité donnée par les huitains. Dans cet écrin, vous voyez les titres, hein, Rayon 2, sont une provocation allègre pour un musée structuré par la classification scientifique. Le poète fait son miel de rayon, range, et si l'on connaît un rayon, ne fait pas parade de son érudition. Le poème se lit avec ou sans la complicité d'un savoir. Et Mireille Kalgruber a cette formule éclairante pour exprimer l'épistémophilie de Michel Butor. Un appétit de savoir et non du savoir. Le savoir peut geler quand le savoir de oriente vers le faire, la méthode, le laboratoire, le process plus que le résultat. Michel Butor reclasse donc les réceptacles par fonction, rayon, puis brode sur un élément, ce qu'on y préparait autrefois, ceux qui les utilisaient, le lieu de leur création, soit le contexte, le quotidien, le geste, la puissance du vivre qui est un fil d'Ariane dans l'embrouillage du présent. Comme vous le voyez, là, il y a deux visages identiques, hein, qui sont adossés. Vous avez un poème qui nous transporte aux quatre points cardinaux, à la manière heureuse de son exposition de profil. Ce qu'on ne voit pas dans le catalogue où il est de face, alors on ne s'aperçoit pas que c'est Janus, mais dans l'exposition, vous voyez en suivant la flèche, qu'il est de profil. Et tout le poème va évoquer cette dualité du regard dont je parlais au début. Et enfin, un dernier poème pour un vase anthropomorphe mortuaire du Mexique. Là, ici, Michel Butor évite les phrasistes qui voudraient épuiser l'image. Mais il va préférer sélectionner un détail. Ici, ce sont les yeux fermés ou une vue d'ensemble ailleurs, à distance du réceptacle. Il sait, tout comme Barbara Cassin, que l'ekphrasis, hein, cette description du bouclier d'Achille, enfin de l'objet, est un objet transi de culture. Mais lui en exploite la procédure de fiction. Pour conclure, j'ai glané pour vous, vous l'avez vu, une isotopie liée à la botanique, les graines et germes au réservoir du poète jardinier, en un verger, je voudrais dire en un poémier. La manière muséolittéraire de Michel Butor conjugue la description florissante, le métatexte, hein, parfois les arrêts comme ça sur étymologie, la greffe, avec ses citations boutures dans le mouvement d'une exercitation à la montagne, les codes du musée, du lieu muséal, c'est-à-dire le cartel, le tirage, la classification, ou un récit court-circuité et réactivé par un autre registre, une langue haute qui le recharge et nous tient attentifs à la langue. Le poème participe d'une démarche muséographique d'un même récit transversal où discipline, chronologie et pratique se croisent sans hiérarchie. Cet art littéraire enlargit la part sensible et l'expérience est un mode de connaissance. Selon Michel Butor, dans une exposition, je le cite, « On ne voit qu'une partie des objets. Il faut le voir autre chose, donner l'envie d'en voir d'autres, avec le visiteur. » La poésie a cette capacité de présence, comme telle, dévouée plutôt à capturer dans le langage la singularité de la présence du sensible. Nommer, c'est accorder la présence à l'autre, au désir, dont le dénouement n'est pas la mort, mais l'éclosion, ce qui commence. Alors, qu'est-ce qui commence? Sinon, l'expérience, cette autre source de la pensée, comme le dit J.B. Pontalis, une expérience nourrie ici par la rencontre d'un texte, d'une œuvre, d'un objet. Lire Michel Butor, c'est reprendre sans cesse le chemin allègre, là où nous n'arrêtons pas de naître, là où demeure un petit peu de braise sous la cendre, et sentir qu'il a semé sa liberté dans notre langue même, qu'il nous expose à la langue. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.